va donc rejoindre Daniel Rioux. Salut Daniel.
Bonjour, bonjour à tout le monde et à ceux qui nous écoutent. Puis nous, on est présents, même si la technologie nous laisse tomber. Ouais. Aujourd'hui, je vous entretiens sur l'histoire, justement, la chanson, ça, il y avait le titre « Bénévole ouais. » d'une jeune femme qui s'appelle Alex Parisien et qui est atteinte de trisomie 21. Eh bien, imaginez-vous, elle travaillait bénévolement, puis elle a été renvoyée après 15 ans de travail chez la succursale de Serres à Gatineau. Et pour elle, ben, on l'a séparée de sa deuxième famille. Alors, il y a un bon matin, cet article a paru d'ailleurs dans la presse hier, le 13 juillet, donc Thomas-Emmanuel Côté relate cette situation. Alors, c'est son gérant, Alix, qui l'a informé qu'elle n'aurait plus de quart de travail en raison d'une nouvelle logistique de livraison, parce qu'elle travaillait dans l'entrepôt de chez De Serres à Gatineau. Alors, évidemment, c'est une décision qui s'explique mal les parents, chez qui elle vit toujours, et qui trouvent dommage que leur fille, justement, de 37 ans, perde une occupation stimulante et qu'elle aimait beaucoup. Et vous savez, quand on est content d'aller à sa job, ça change tout. C'est ce que dit son père, Robert Parisien. Il faut qu'elle soit accompagnée pendant des semaines pour être formée dans un nouvel emploi. Il faut tout recommencer, c'est ce qu'ajoute sa mère, Anne Buisson. Ben, remercier une personne qui travaille bénévolement sans l'accompagner dans une transition vers autre chose, ce n'est pas acceptable, c'est ce que commente pour sa part Amélie Durand-Lot, qui elle est directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Là, je vous mets dans le contexte, c'est que Renaud Bré a racheté De Serres à l'automne 2024 et défend cependant cette décision. D'ailleurs, la directrice des communications on dit, je ne sais pas si on peut vraiment parler de licenciement parce qu'Alix était quand même bénévole. Alors, Mme Claveau explique que le rachat a amené plusieurs changements opérationnels qui faisaient que Alix, qui ne travaillait qu'une fois par semaine, se retrouvait parfois à ne rien faire, selon ses propos. Mais Alix représente une situation, elle est très loin d'être la seule personne avec une déficience intellectuelle à avoir travaillé longtemps sans être rémunérée ou en étant sous-payé, comme l'a mise en lumière un récent dossier qui a été publié dans la presse du 31 mai dernier. Et dans son cas, ses parents expliquent que les dédales administratifs, notamment au début de son lien d'emploi, ont fait en sorte qu'il était difficile pour elle d'être rémunérée. Entre ne pas travailler ou travailler sans être payée, pour Mme Parisien, la maman Anne et ses parents ont donc choisi le travail. Nous, ce qui nous convenait, c'était qu'elle puisse travailler puis se lever le matin, puis avoir des collègues et aussi, au-delà de ça, un travail qu'elle aime. D'ailleurs, Alix Parisien, elle est peintronnée et je peux vous dire que les images que j'ai vues dans le journal sont vraiment jolies. C'est de la peinture naïve, très colorée parce que
très Alix... beau, hein? J'ai vu ça aussi, c'était dans la presse plus, où effectivement c'est très
oui,
beau.
Oui, très jolie. Puis Alix, elle voit la vie en couleur. Elle fait ses épiceries par couleur. Elle me dit des fois, elle dit à sa mère... Écoute, maman, on n'a rien de jaune pour la salade. En plus des salades, elle se sert des couleurs pour peindre de jolies toiles que l'on voit très bien dans le journal La Presse. Et ça, depuis des années. D'ailleurs, je vous dirais que j'en achèterais de ces toiles parce qu'elles sont vraiment belles. Alors, en 2010, Alix Parisien se trouve un emploi donc bénévole au magasin d'art plastique de Serres à Gatineau, en plein dans sa palette, c'est le cas de le dire. Elle s'occupe notamment de décharger les camions de livraison et de placer le matériel dans les rayons. Ce qu'elle aimait le mieux ranger, bien évidemment, vous devinez son dada, la peinture, évidemment. Puis rapidement, elle a pris goût à son travail. Ça lui permet de faire comme monsieur et madame tout le monde, et d'être inclus dans la société, parce qu'Alix, elle fait partie de la société. Et Amélie Durand-Lot, qui est directrice de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, renchérit en disant, oui, ils sont inclus dans la société et il faut leur faire une place. Alix travaillait 3 jours par semaine avant la pandémie, alors plus qu'une journée depuis la pandémie. Elle ne pourrait pas travailler 40 heures par semaine parce que, comme elle dit, je serais trop fatiguée. Et après ses quarts de 9 à 15 heures, c'était l'heure de la sieste. C'était tellement agréable de travailler avec Alix. Elle ne chialait jamais et c'est très rare qu'elle n'ait pas été souriante. C'est ce que raconte Alain Côté, qui était son ancien directeur, qui était l'ancien directeur chez De Serres et qui l'avait embauché à l'époque comme stagiaire. Elle avait de quoi sourire parce que l'ambiance était bonne au magasin. Ses équipiers venaient de voir ses expositions et ses gérants lui donnaient même des conseils pour ses toiles. Mais là, il est survenu le rachat de Dessert par Renaud Bré en 2024 et ça a tout changé. Un gérant a été licencié, d'autres équipiers ont quitté le commerce depuis et comme elle disait à ses parents, quand elle a vu ça passer, elle a dit « Moi, je vais être la prochaine ». Les conditions n'étaient pas réunies et pour les parents d'Alix, les raisons de l'employeur ne sont que des prétextes. Ceux qui sont là actuellement, veulent-ils vraiment avoir quelqu'un comme Alix? S'interroge le père Robert Parisien. Il y a un effort humain à intégrer quelqu'un comme Alix. La diversité, ce n'est pas juste des questions ethniques ou LGBTQ. La diversité, c'est aussi la différence et la déficience intellectuelle, renchérit Anne Buisson, la maman d'Alix. Renaud Bré n'a pas de programme pour les personnes avec une déficience intellectuelle. C'était tellement agréable de travailler avec Alix, c'est ce que raconte Alain Côté, qui était l'ancien directeur chez Dessert avant, justement, l'achat de Renaud Bré, qui l'avait embauché à l'époque comme stagiaire et les conditions n'étaient pas réunies pour garder convenablement Alix, dit Madame Claveau, qui s'occupe qui est à la tête de l'organisme sur la déficience intellectuelle, à défaut, il valait mieux s'abstenir que de causer des problèmes. Elle ajoute que Alix doit être suivie par d'autres employés qui doivent prendre le temps de lui expliquer de nouvelles tâches et elle n'est pas quelqu'un qu'on peut laisser tout seul non plus. Or, ce n'est pas ce que pense Alain Côté, l'ancien directeur qui l'avait embauché. Les dernières années où j'étais là, quand j'engageais des nouveaux, c'est souvent Alix qui les formait. Alors, c'est vous dire, hein, un dit quelque chose, l'autre dit d'autres choses. Alors, je pense que M. Côté il aimait bien son Alix. Alors, la prochaine étape, l'étape pour Alix, parce qu'elle n'a pas perdu courage et elle va pousser, elle va aller de l'avant, elle va aller porter des CV. Puis, elle aimerait bien ça travailler chez Simons parce que elle trouve que c'est vraiment beau et sûrement elle doit trouver que c'est très coloré. Ou dans une librairie, mais surtout pas chez Renaud Bré. Oh. Elle veut vraiment pas aller à cet endroit-là. Mais justement, je vous parlais qu'il y avait un article paru le 31 mai dernier sur les programmes d'intégration en emploi. Pour les gens qui ont des déficiences intellectuelles ou comme Alix avec la trisomie. Ici, j'ai retenu une histoire qui a bien fini pour terminer cette chronique. C'est Vicky qui occupe maintenant et qui a été embauchée à la station de ski Bromont. Elle a commencé comme bénévole et elle s'est trouvée, elle a commencé là, elle a appris le métier, on lui a fait confiance et suite à un stage, elle a été embauchée par la station de ski Bromont. Et puis, je vous mentionne que c'est un organisme plein rayon en Estrie qui a permis son intégration, justement, à la station de ski Bromont. Donc, la station de ski Bromont serait un exemple, justement, parce qu'ils ont une volonté sincère d'intégrer des gens. Et d'ailleurs, la station de ski Bromont embauche un salaire minimum et il n'y a pas que Vicky qui est là à la station de ski Bromont. Il y a aussi deux autres personnes qui ont cette condition de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l'autisme. Donc, il n'y a pas que des histoires malheureuses. Alors, je retiens cet organisme, s'il y en a un dans votre région, plein rayon, qui permet l'intégration de personnes avec une déficience ou le spectre de l'autisme ou de la trisomie comme Alix. Et donc, il y a du positif. Puis, il y a des situations désolantes et tristes comme celle d'Alix. Et si vous avez l'occasion d'avoir la presse chez vous et d'aller voir les peintures, elles sont
superbes. Les photos sont superbes. Ah, en fait, on peut juste aller en ligne pour le trouver.
Oui, aller en ligne pour les retrouver puis voir le beau sourire d'Alix. Elle est vraiment sympathique. Et moi, je lui souhaite vraiment qu'elle trouve un nouvel emploi puis qu'elle puisse s'épanouir gaiement avec ses collègues et ses patrons.
Ouais, espérons que notre société va finir par changer un peu puis d'être plus ouverte à la diversité, surtout la diversité capacitaire et intellectuelle. Il y a vraiment, on perd des occasions puis des talents incroyables. Daniel, on va se reparler après la pause, justement. On va parler d'anniversaire et de ménage. J'ai hâte de voir ce que tu as à nous proposer.
Ah, oui.
Certainement, moi, tu sais que le ménage, je le dis, je le répète, ce n'est pas mon activité préférée. Alors, si quelqu'un aime ça, je vais les inviter chez moi sans aucun problème. Je paye la pizza et même la bière. Tout ça pour vous dire que nous sommes de retour pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous êtes branchés, mais on est de retour sur les internets et TuneIn et Radio Player. Et oui, à part Daniel, on va aussi parler à Louis Bernis après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos voeux sont sincères pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos voeux.
Peut-être pas la fête de Louis de Bernis, mais c'est la fête des Français. Ça fait qu'on va vous souhaiter un joyeux anniversaire tout le monde, mais à ceux à qui, à toi, 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 et toi, et toi, à qui c'est l'anniversaire, bon anniversaire. J'ai trouvé cette belle petite chanson pour présenter cette deuxième partie de ta chronique, Daniel.
Ben oui, c'est dans la revue Psychologie de mai 24 que j'ai trouvé cet article, puis je me dis, c'est vrai, les anniversaires, on entend souvent, on est invité, puis arrive à chaque année notre anniversaire, mais le titre, c'est « Je déteste fêter mon anniversaire », ça représente une année supplémentaire, ça représente des fois un calvaire, peut-être que ça réveille aussi des angoisses, des traumatismes enfouis ou une confiance qui est un petit peu émoussée. À cette période-là où arrive l'anniversaire, on est peut-être pris du « birthday blues », c'est on se sent fragilisé quand vient le moment de souffler une bougie supplémentaire. Alors, quand on est un enfant, on est souvent fier de fêter son anniversaire, de grandir, mais quand on atteint enfin l'âge de raison et puis tous ceux qui suivent, on commence à trouver ça un petit peu moins drôle. La date symbolique de l'anniversaire va peut-être réveiller parfois un sentiment d'échec, une impression de ne pas être à la bonne place. Hein. Il y a aussi, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, est-ce que vous aimez qu'on vous fête votre anniversaire, Denis Martin?
C'est une question compliquée. Il n'y a jamais de réponse facile avec moi, tu le sais. Hein.
Voyez-vous, vous venez de l'article est pour vous, entre autres, et pour tous ceux. Et puis Louis, est-ce que vous aimez qu'on souligne votre anniversaire?
Ça fait toujours plaisir. J'aime aussi la discrétion. Pas forcément une grande fête, mais les vœux font toujours un grand plaisir.
Il
n'y
a même pas 20 ans. Là. On peut s'arrêter.
C'est quand même un peu plus.
Je suis juste un peu jaloux, c'est tout. En fait, je le déteste, mais c'est pas grave.
Non, mais moi, vous le détestez. Puis Mathieu, je ne sais pas si lui, il aime qu'on souligne son anniversaire.
J'aime qu'on célèbre mon non-anniversaire, donc à tous les jours, sauf une journée, le 20 août.
Ah, le 20 août, c'est bientôt. Donc, l'article, c'est parfait pour vous et pour tout le monde. Alors, l'idée de vieillir peut vous angoisser. C'est un psychologue qui parle justement, Ondine Perron, qui dit « Beaucoup de mes patients n'aiment pas le fêter car ils n'en sont pas là où ils s'imaginaient à 30, 40 ou 50 ans. » Puis l'anniversaire les oblige à faire un bilan parfois douloureux. Ils se comparent à leurs amis du même âge, estiment que leurs projets n'aboutissent pas comme ils le souhaiteraient. Et cette date qui revient chaque année nous confronte aussi à notre peur de la mort, à l'impossibilité de contrôler, un mot très important, le temps qui passe. Parfois, au premier signe de la vieillesse, encore là, quand on est dans un âge avancé, il y a les éventuels pertes qui peuvent être compensées, par exemple porter des lunettes, il y en a qui n'aiment pas ça, avoir des premiers cheveux gris aussi, la perte aussi de l'acuité auditive.
Mais en fait, non, je vais te corriger, OK? Je vais te corriger là-dessus.
Okay.
Alors, je trouve qu'on imprime de plus en plus petit les choses qu'on doit lire, les instructions surtout. C'est pas ma vue qui baisse. Et je trouve aussi que le son est de plus en plus faible quand on veut nous faire des annonces. Et puis, je peux aussi continuer en disant que le métro est de plus en plus profond, donc il faut descendre plus et monter plus d'escaliers. Voilà.
Ah, bien, il y en a plein de raisons, voyez-vous. Donc, on voit des petites pertes ou des fois dire, bien, peut-être te remettre en forme aussi. Mais l'anniversaire devient souvent plus difficile à fêter lorsqu'on entre dans le vieillissement, surtout un vieillissement plus avancé où on peut avoir des pertes cognitives, motrices, qui ne peuvent plus être compensées. C'est ce qu'analyse le psychologue Christian Elslon, qui, lui, a écrit un livre, La petite psychologie de l'anniversaire, si vous voulez prolonger votre lecture. Dans certains cas, il y en a qui détestent fêter leur anniversaire parce que ça ravive un mauvais souvenir. Il y a Pierre qui, à 54 ans, n'a plus jamais fêté son anniversaire depuis que son père est décédé à cette date, il y a déjà 30 ans. Émilie, elle, n'a aucune envie de se remémorer chaque année les tristes anniversaires de son enfance. La date anniversaire de la naissance est parfois contagieuse par un souvenir traumatique aussi. Hein. On a aussi moins envie de fêter, je peux comprendre, aussi lorsqu'on vient de subir un deuil ou une épreuve. Certains n'ont tout simplement pas envie de cautionner cette fête conventionnelle parce qu'elle incarne aussi la surconsommation. Hein? Faire la fête, le party, les grosses fêtes d'enfants aussi, ou encore la fête à n'en plus finir. Il y en a aussi des gens qui détestent fêter leur anniversaire parce qu'ils souffrent d'anxiété sociale. On accepte mal d'être au centre de l'attention. Certains sont mal à l'aise lorsque tous les regards sont centrés, sont braqués sur eux et qu'on leur offre des cadeaux. Hein? Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont une vie sociale peu développée qui n'aiment pas fêter leur anniversaire car elles n'ont pas grand monde à inviter, donc c'est peut-être la journée moche de l'année. Des fois, il y a Noël, mais là, peut-être la journée de l'anniversaire aussi. Il y a d'autres qui souffrent d'une faible estime de soi et qui craignent que leurs amis aient mieux à faire ce jour-là. Ça, c'est vraiment là. Mais il ne faut pas céder à la pression puis choisir surtout de passer ce jour-là comme ça vous plaît. Il y a aussi ici Christine qui a 52 ans. Elle n'a jamais été très à l'aise avec le fait de fêter son anniversaire. Elle trouvait ça un peu égocentrique. Pour ses 50 ans, elle a décidé de se faire une grande fête, pas tant pour célébrer son anniversaire, ça j'ai trouvé ça bien, c'est pour fêter la vie, la famille et ses amis. Alors, ça lui a prouvé, en fêtant, faisant de belles grandes fêtes à ses 50 ans, de réussir à changer. Ça lui a prouvé que c'était possible de changer le fait de détester puis de se mettre à aimer et dépasser ses peurs aussi. Il y a 4 conseils qui sont tirés du livre La petite psychologie de l'anniversaire. C'est examiner nos peurs, hein, la peur de vieillir, l'anxiété sociale, le manque de confiance en soi ou en l'autre. Accepter de regarder ses zones d'ombre pour comprendre pourquoi le jour de son anniversaire est pénible. Hein, faire une introspection. Oublier les conventions sociales. Trouver pour votre anniversaire ce qui vous donne le sourire et vous met dans une tension positive, hein, vous faire plaisir. Célébrer des moments qui ont du sens, par exemple le premier contrat de travail, le retour d'un grand voyage, le départ à la retraite. Célébrer d'ailleurs des moments qui ont du sens pour vous, donc qui ont davantage de sens que l'anniversaire comme tel. Focus ailleurs. Et puis aussi, ben, si vous n'aimez pas qu'on fête votre anniversaire et que vous avez des enfants ou des petits-enfants, ben, qu'on peut se concentrer sur les anniversaires des enfants. Et puis, c'est une occasion pour fêter en famille. Donc, c'était pourquoi vous détestez fêter votre anniversaire. Ben, ici, vous avez peut-être des conseils. Peut-être une occasion de vous réconcilier avec le jour de votre anniversaire.
Mais tu sais que je fais toujours ça à la blague. En fait, j'avoue que je m'en fous un peu de mon anniversaire, mais l'idée, c'est que c'est une occasion de plus de se réunir avec des amis et d'avoir du plaisir. Et c'est souvent... moi, j'organise beaucoup, beaucoup de parties, de fêtes pour des amis. J'ai toujours du plaisir à faire ça avec des thématiques et tout parce que c'est l'occasion c'est de souligner la personne qu'on aime, et c'est aussi l'occasion de se retrouver, se regrouper. Alors, et on n'en a pas beaucoup de ces occasions-là, d'être bon et bonne l'un envers l'autre. Alors, c'est ça. Mais je fais beaucoup de la blague parce qu'on me dit toujours « Ah, mon Dieu, Denis Martin! » Parce que c'est vrai que l'année prochaine, je vais avoir droit au transport en commun gratuit à Montréal.
Oh! C'est bien ça!
J'atteins le 64, mais l'année prochaine, 65. Je trouve, je ne fais pas dans les clichés de dire « Ah, c'est donc un privilège de vieillir. »
Oui.
Je trouve ça un peu...
On pourrait dire, vous venez de dire quelque chose, c'est un privilège de vieillir parce qu'il y a des gens que, peut-être dans vos amis, dans nos amis, ou des gens, des êtres chers qui sont décédés un peu trop jeunes, ouais. De maladie, puis on se dit « Ah, finalement, c'est un privilège de pouvoir vieillir aussi, ouais. hein? Ouais. » Ça dépend quel angle qu'on lui donne.
C'est vrai. Moi, je me dis, bon, écoute, on a l'âge qu'on a, et on a l'âge dans sa tête aussi. Et moi, souvent, quand je suis au parc Astérix, disons que j'ai 64, mais je m'en vais sur mes 5 ans. Bon, cela dit, mais pourquoi pas?
Oui.
Alors, troisième sujet, on va parler de ménage. Là, vraiment, je le dis, j'ai horreur de ça. J'embauche des gens pour le faire parce que je déteste faire le ménage.
Vous embauchez des gens pour le faire vraiment, là, hein?
Oui, je fais ce qu'il faut, là, parce que je garde l'appartement propre.
Oui.
Mais le grand ménage, je pense que c'est... Tant ou aussi longtemps que je suis capable de le faire, je me paye quelqu'un pour le faire.
C'est bien ça. Ça, c'est très, très bien. Puis, écoutez, les bienfaits, on peut faire du grand ménage aussi. On parle du grand ménage, des fois, c'est au printemps, mais le grand ménage, on peut le faire n'importe quand. Tout à fait. Tu sais, par exemple, il fait très chaud. Si vous avez la climatisation chez vous, au lieu de râler sur la chaleur, faites un petit peu de ménage, puis ça va vous tenir occupé. Puis, les journées de fraîcheur, allez distribuer vos dons après.
Ouais.
Alors, on trie, on jette, on remplace les vieux draps, les pots de crème inutilisés. C'est fou ce qu'on accumule. Les vêtements qu'on ne porte plus, la vaisselle, les livres que tu sais
la
que tu liras.
La surconsommation, Daniel, la surconsommation.
Ben, je le sais. Puis on en profite pour changer les meubles de place, etc. Ça nous permet de faire un nettoyage intérieur. Nos intérieurs nous ressemblent. Hein? Je veux dire, des gens très ordonnés. Des fois, c'est des gens de contrôle. Il y a des gens qui aiment sont un petit peu désordonnés. Bon, ils ont un petit peu de magie dans leur tête. Là, c'est ce que je pense. C'est une manière de se réapproprier son espace. Ce n'est pas parce qu'on a rangé qu'on va mieux aller par la suite. Non, mais on va peut-être avoir un petit peu plus, on va voir un peu plus clair. Le grand ménage s'accompagne souvent de grandes décisions. Par exemple, se remettre au sport, à la musique. C'est essayer de fréquenter certaines gens, renouer avec d'autres. C'est entre autres dans le bilan annuel qu'on fait parfois des dates symboliques aussi. Donc, c'est pas pour rien que le grand ménage est un rituel. Et on dit que c'est souvent printanier, mais ça peut être n'importe quel moment de l'année. Puis dans bien des religions, comme dans la plupart des cultures, c'est un symbole de... C'est intéressant ça. Un symbole de purification.
Mmh.
Avant Pâques, c'est avant Pâques chez les chrétiens, hein, le carême, pour Pessah chez les Juifs et pour l'Aïd chez les musulmans, mais aussi au Japon et en Chine pour le Nouvel An. C'est chasser l'ancien pour laisser place au nouveau et c'est bien aussi, c'est un second souffle. Le principe même de la vague du souffle, expire, inspire. On dit dans l'article, d'ailleurs, l'article qui est paru dans le magazine de psychologie de mai 2024, on y mentionne, c'est un grand vent qui est venu d'Asie, hein, harmoniser l'extérieur pour favoriser le bien-être intérieur. Le grand principe Feng Shui est entré dans nos mœurs et on parle ici de faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi. C'est un livre de Dominique Laureau chez Marabout qui a paru en 2019. La demeure est un élément vital de notre existence. Hein, qui est cette dame qui écrit qui est une adepte de la culture japonaise. Elle nous permet de nous ressourcer, de reprendre des forces quand celles-ci sont épuisées. C'est notre refuge, hein, cette demeure. Notre intérieur constitue, après le vêtement, notre troisième peau et notre identité. Avec la méthode Kurashi, vie qui est japonais, c'est l'art d'organiser son quotidien. Là, je vous parle de quelqu'un dont on a entendu parler souvent, c'est Marie Kondo, hein, c'est la référence. Elle a publié d'ailleurs en 2016 le livre La magie du rangement qui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Et la méthode Comme Marie a été déclinée dans deux téléréalités sur Netflix. Est-ce que quand on l'analyse, quand on fait le ménage, on peut analyser les objets, les vêtements, etc. Est-ce que cet objet ou ce vêtement vous apporte de la joie? Ben, si la réponse est non, hein, pouf, on s'en débarrasse. Sauf que Marie Kondo s'est calmée un petit peu parce que quelques années plus tard, maintenant elle est mariée et mère de 3 enfants, ben, Marie Kondo, qui est une jeune femme d'affaires, s'est un peu détendue parce que maintenant sa maison est un peu plus en désordre. Mais à ce stade de sa vie, c'est la bonne façon de gérer mon temps. C'est donc qu'elle fait un petit peu de ménage une fois de temps en temps. C'est ce qu'elle déclarait au Washington Post. Et ça nous déculpabilise aussi, peut-être, quand on donne. On dit genre, j'entraîne moi avec moi. La grosse question, c'est oui, par où je vais commencer? Hein? Quand vous êtes dans votre bordel, c'est où je vais commencer? L'important est de se décider, justement, pour un volume ou une durée acceptable, y aller par secteur, un placard, un tiroir, une bibliothèque, puis en faire un peu chaque jour, puis se mettre un petit peu de musique pour avoir un peu de l'entrain. Alors, Vincent Tribou rappelle que les grands principes de la méthode KonMari, de Marie Kondo, sont dans la lignée d'études en psychologie parues au début des années 90 sur des techniques de rangement destinées aux accumulateurs pathologiques, parce qu'il y en a qui accumulent de façon pathologique.
Alors, c'est un syndrome diogène qu'on appelle, hein?
Oui, absolument. Fait que c'est des pratiques de bon sens. Les scientifiques utilisent deux échelles, l'échelle d'utilité et les critères d'attachement. Donc, on va se débarrasser, entre autres, des doublons, des vêtements qui ne nous vont pas, des bols ébréchés, garde-tu en souvenir, des Tupperware sans couvercle, des piles de magazines qui s'entassent. Et on met en valeur, donc, un univers qui est saturé d'objets. On met en valeur des objets. On range chaque chose à sa place, avec sa famille d'objets, pour être sûr de tout retrouver facilement et éviter, justement, de surconsommer. Pourquoi aller se racheter? Moi, je connais des gens, quand ils fouillent dans leurs armoires, ils en ont déjà, puis ils en ont acheté. Ils vont, plutôt des kits pour les fêtes. Ouais. Ils vont se racheter un kit de fête, puis ils en ont une tonne dans le fond de l'armoire. Bon. Ben, alors, on fait rentrer le moins possible d'objets dans la maison. Ou si on en fait rentrer, t'en sors une couple. Hein?
Ouais.
Hein? C'est ça qu'il faut faire. Et puis, une fois que tout est bien rangé, on mentionne dans l'article, ne reste plus qu'à tout redéranger et ranger à nouveau. Et l'éternel recommencement, et je trouvais ça bien comme final, l'éternel recommencement, parce que c'est la vie, puis c'est comme ça.
C'est un peu comme c'est le principe de Sisyphe, là, qu'on refait le tas de complet.
Oui, continue. Oui,
bon, hey, on va se laisser là-dessus. Le temps d'aller faire un petit peu de musique, puis je vais te laisser aller faire ton ménage. Puis si tu veux, tu peux venir chez moi aussi, mais ça me ferait plaisir.
Pas sûr, mais il y a une chose qui est sûre, je vous retrouve la semaine prochaine.
Certainement avec plaisir, Daniel. Merci d'avoir été là ce matin.
Au revoir.
Un petit pont musical.